Merci d'être resté avec nous. Nous allons maintenant parler d'un sujet difficile et souvent considéré comme l'une des pires expériences que la vie puisse nous réserver, puisqu'il s'agit de la perte d'un enfant. Quel que soit l'âge de l'enfant ou les circonstances de sa mort, qu'il s'agisse d'un accident, d'un suicide ou des suites d'une maladie, le décès d'un enfant constitue un bouleversement violent pour la famille entière.
Comment les parents vivent-ils une telle tragédie et en quoi la réaction des hommes et des femmes est-elle différente? Comment chaque parent et le couple lui-même parvient-il à se reconstruire après un tel traumatisme? En quoi une psychothérapie ou la participation à des groupes de parole peut-il aider? Qu'en est-il des frères et sœurs? Pour répondre à toutes ces questions, notre spécialiste, le docteur Christophe Fauré, bonjour.
Bonjour.
Psychiatre, psychothérapeute, auteur de ce livre « Vivre le deuil au jour le jour » qui est paru chez Albin Michel. Et on accueille des parents et un couple, Agnès et Serge Momus. Bonjour, merci à tous les deux d'être là.
Bonjour. Bonjour.
Le drame date du 21 mars 2010. Vous avez perdu votre fille Alice lors d'un accident. Vous n'étiez pas ensemble quand on vous a appris cette horreur. C'est vous qu'on a prévenu en premier?
Oui.
Comment oui. ça s'est passé?
Serge était dans l'avion. Il partait pour l'Afrique du Sud. Un dimanche matin, vers 6h30, il y a eu un coup de sonnette et il y avait trois policiers qui ont demandé si j'étais bien Madame Momus, qui m'ont demandé si j'étais seule dans la maison, enfin si Monsieur Momus était là, j'ai dit non. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient rentrer, d'un ton un petit peu presque menaçant, enfin voilà, je ne savais pas ce qui se passait. Et je les ai fait rentrer. Ils m'ont redemandé est-ce que vous êtes Madame Momus? J'ai dit oui. Est-ce que Monsieur Momus est là? J'ai dit non, il est dans l'avion. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la maison? Alors j'ai dit oui, j'ai ma petite dernière. Et ma grande, je ne sais pas, parce qu'elle est sortie hier au soir et des fois elle reste dormir chez des amis. Et là, ils m'ont dit mais votre fille, vous ne la verrez jamais. Elle s'est tuée cette nuit dans un accident de scooter. Voilà, donc...
Un peu brutal, on va dire.
Un peu brutal, je pense que... ils étaient aussi mal à l'aise.
Sûrement voilà, parents et sûrement
probablement,
mal à l'aise.
Ils ne sont pas préparés à annoncer ce genre de choses. Voilà.
Donc, on précise que c'est un accident de scooter.
Oui, c'est un accident de scooter.
Qu'elle était passagère.
Elle était passagère.
Et que le conducteur était sous l'emprise de l'alcool.
Sous l'emprise de l'alcool.
C'est le personnel d'Air France qui vous a prévenu?
En arrivant à l'aéroport à Johannesburg, j'avais des messages sur mon téléphone. Pour chose qu'on fait en descendant de l'avion, on allume le téléphone. Il y avait des messages d'Agnès, mais je sentais que c'était... Elle paniquait, elle pleurait, donc je n'ai pas écouté les messages. J'ai rappelé tout de suite, donc c'est Agnès qui me l'a appris directement. Voilà, de manière très, ma foi, simple et terrible, en disant « Alice a eu un accident de scooter, elle est morte ».
Et vous avez été... Vous bien pris en charge par le personnel, en l'occurrence de la compagnie, ou pas, puisque vous êtes dû rentrer évidemment
Air France, oui. Ils ont été bien, très bien. Et, ils sont occupés de moi parce que dans ces moments-là, d'abord je suis tombé au sol, mes jambes ne me portaient plus. Et ensuite, il y a un tel choc que du coup on perd tous ses moyens. On ne sait plus ce qu'on doit faire, ni dire, ni quoi que ce soit. Et donc là, ils se sont occupés de moi. Ils m'ont changé mon billet d'avion. Ils m'ont remis dans l'avion qui repartait. Ils ont s'occupé des bagages, etc. etc. Oui, j'ai eu une espèce d'accueil au moins sur la logistique. Okay. S'il n'y a pas eu de support psychologique, il y a eu au moins un support logistique. Oui.
Donc vous êtes rentrés ensemble et vous êtes allés ensemble à l'Institut médico-légal. Voilà. Vous vouliez voir votre fille?
Oui. Ça me semblait essentiel. Hein, parce que jusqu'au moment où, tant qu'on n'a pas vu, même si on vous a remis au commissariat la petite pochette avec le sac et les bijoux, je veux dire, tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne le croyez pas. Moi, j'avais aucune peur de ça. Hein, et à l'Institut médico-légal, on vous prépare en disant... comment est la personne, hein, puisqu'Alice était blessée, donc on vous prévient de ce que vous allez voir. Et on a eu la permission de la voir quelques instants, c'est vraiment très court, hein, l'Institut médico-légal, on est derrière une glace, on a pu voir Alice peut-être une minute.
Et ça a ancré la certitude de cette mort.
Ça a ancré la certitude. Ouais. Même si je pense qu'il faut des mois et des mois avant de vraiment intégrer ça. Comme nous étions très calmes, le médecin légiste nous a permis de faire le tour et d'aller embrasser notre fille.
Alors on verra dans quelques instants qu'il y a une autre étape essentielle qui était celle des obsèques. Mm-hmm. Et puis vous avez aussi, vous dans les mois qui ont suivi, réagi différemment l'un et l'autre face à cette absence. On va prendre quelques questions de téléspectateurs. Ma mère a perdu sa fille à la naissance. On lui avait déconseillé de la voir à l'époque. Lui dirait-on la même chose aujourd'hui, nous demande Anthony.
Clairement, on ne dirait pas du tout la même chose. On sait maintenant que le fait de voir l'enfant, même si c'est un enfant qui vient de naître, le fait de le porter, de l'objectiver, parfois même de prendre une photo. Il y a certaines équipes qui prennent des photos, ils ne les donnent pas nécessairement aux parents tout de suite, mais ils les gardent en disant si vous voulez les voir plus tard. C'est vrai, ça permet aussi de donner une réalité, une identité à cet enfant décédé. Donc c'est vraiment un conseil qu'on ne donnerait plus. C'est utile de voir l'enfant. Ce n'est pas absolument indispensable, mais c'est extrêmement utile, même aussi pour le père. De voir l'enfant et de le porter, il a une réalité physique de cet enfant. Ce n'est pas simplement la maman qui a vraiment une réalité physique. Lui, c'est conceptuel encore, son enfant. Le fait de le porter, de le voir, de le toucher, de le sentir, c'est quelque chose qui va ancrer aussi cette conscience de « je suis un papa qui est en deuil également ».
Et pour les frères et sœurs, quand ils sont plus jeunes, vos enfants avaient quoi, 14-15 ans, les autres?
Hugo avait 21 ans et Léna 12 ans. Donc la question, par exemple, à l'Institut médico-légal, nous on l'a posée en disant est-ce qu'il faut que notre petite dernière voit ou pas sa sœur? Donc ils nous ont expliqué et ils nous ont dit qu'il fallait vraiment lui expliquer que c'était la dernière fois qu'elle pourrait voir sa sœur. Donc il fallait qu'elle fasse à 12 ans ce choix de dire je veux ou pas. Et ce que nous on lui a conseillé, c'est d'en parler à son frère, à ses cousines, éventuellement à ses amis, et que c'était sa décision. Donc que si elle voulait la voir, elle pouvait, mais que si elle ne voulait pas, c'était pas grave. Elle n'a pas souhaité la voir. Elle n'a pas souhaité la voir.
Mais c'est important que ce soit elle qui choisisse.
Mais c'est elle qui a choisi. En tout cas, on a été accompagnés par l'Institut médico-légal dans cette démarche, en fait.
Même pour trouver les mots. Voilà. Même les tout jeunes, 4 ans, 5 ans, expliquer. Et si l'enfant veut voir, il faut vraiment très clairement expliqué, le corps va être peut-être froid, peut-être plus pâle, enfin vraiment entrer dans les détails très concrets. Et après c'est toujours pour les tout petits enfants, le parent va décider, mais c'est vrai que même pour des tout jeunes, 7-8 ans, ils peuvent en connaissance de cause avoir accès à ce... Alors après lui demander d'embrasser...
C'est vraiment ce qu'il veut faire,
mais le voir peut-être est important.
Et pour l'enterrement c'est pareil, ce sont les frères et sœurs qui choisissent ce qu'ils veulent faire.
Ça peut être utile de
le... Parce que souvent, les parents excluaient les enfants
des enterrements. Avant, on envoyait les enfants chez les oncles et tantes. Là, maintenant, c'est très utile de pouvoir aussi proposer à l'enfant de quelle fleur tu veux. Est-ce que tu veux faire un petit dessin qu'on va mettre dans le cercueil? Est-ce que tu veux écrire? Comment tu veux participer d'une façon ou d'une autre à la cérémonie? Et l'expérience montre, c'est pas un postulat comme ça, que les enfants prennent vraiment s'engagent véritablement s'ils sont accompagnés. C'est toujours... L'enfant, il se permettra uniquement ce que le parent se permet lui-même. Si le parent est verrouillé dans sa peine, incapable de quoi que ce soit, l'enfant va s'ajuster et va demander très peu de choses.
Christine, on a un peu répondu à sa question, mais c'est aussi une forme de témoignage. En 77, j'ai perdu mon frère assassiné. J'étais adolescente, la douleur de la fratrie n'est pas prise en compte. Est-ce toujours le cas?
C'est en 77.
77. Ça reste malheureusement beaucoup le cas. On considère que, à juste titre, que les parents sont les plus touchés par la peine. Et les enfants eux-mêmes, s'ils sont assez grands, peut-être même 12-13 ans, ils peuvent avoir envie de prendre en charge l'émotionnel, la douleur des parents, parce que leur sécurité aussi, ce sont les parents. Si les parents s'effondrent, eux se sentent extrêmement en danger, en insécurité. Donc beaucoup
ont tendance à être soutien de leurs parents.
Et court-circuitent leur propre souffrance qui peut parfois réémerger 10 ans, 20 ans plus tard. Mais même encore actuellement, dans la société, on considère qu'il y a peu d'attention aux frères et sœurs. C'est en train de changer tout doucement, mais il y a véritablement des frères et sœurs qui sont complètement mis à côté de la réalité de leur peine.
Serge, est-ce que vous avez pensé très vite que ça allait être aussi un drame pour vos autres enfants? Vous étiez emmuré dans votre chagrin à vous?
On pense pas grand-chose, voilà, premièrement. Ensuite, effectivement, je crois que là, le premier sentiment, c'est comment je vais faire pour moi, pour survivre à ça, moi. Parce qu'il y a un vrai sentiment physique d'étouffement. Une de mes premières questions, c'était de dire, est-ce que le fait de pleurer comme ça si violemment, est-ce que ça va faire s'arrêter mon cœur. On pense vraiment que physiquement, on va mourir d'étouffement et de douleur. Bon, et c'est une question que j'ai vraiment posée à un psychologue. Une psychologue. Mais après, quand on sait qu'on va survivre à ça, au moins à la douleur physique, comment est-ce qu'on survit ensuite? Et très vite vient la notion de devoir. En disant, je n'ai pas le choix, je dois continuer. Si je ne le fais pas pour moi, parce que c'est lourd à porter, je le fais pour les autres. Et les autres, bien évidemment, la première ligne, c'est mon épouse, ma nièce et mes deux enfants. Donc voilà, donc les enfants viennent tout de suite dans la réflexion parce que le père de famille, son boulot, c'est d'assumer, d'être là. Et donc la notion de devoir a primé très vite, oui.
Roger nous dit, c'était en 79, elle avait 17 ans, c'était hier, je n'en parle jamais socialement, il n'y a pas de mots. Vous, vous êtes ici pour en parler, est-ce que vous avez rapidement imaginé que c'était aussi une façon de s'en sortir, de mettre des mots là-dessus et de discuter?
Juste une autre remarque pareille, nous avons perdu notre fils âgé de 15 ans, mon mari n'en parle jamais, ou de manière très factuelle, est-ce normal, on verra, mais ne pas mettre de mots dessus.
Pour moi, en parler était obligatoire. Je veux dire, j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin d'expliquer aux autres que j'avais besoin d'en parler, parce que je crois que l'entourage a souvent tendance à dire il ne faut pas leur en parler, ça va la faire pleurer, il va avoir de la peine. Or, c'est parler notre enfant qui nous aide à avancer. C'est d'en parler dans son entourage. On trouve toujours quelques personnes, hein, parfois pas les plus proches, mais qui sont des consolateurs, des gens à qui on peut parler. Il y a aussi des spécialistes, hein, il y a aussi le médecin de famille, il y a aussi des psys, il y a aussi des groupes de parole. Il y a plein d'endroits où on peut parler. Et moi, mon expérience, c'est que quand on en parle, et quand on en parle à d'autres, notamment qui ont vécu la même chose, c'est moins lourd à porter.
Pour vous, Serge, c'est la même analyse ?
Oui, je pense que c'est important de verbaliser, de mettre un nom sur les choses, d'ouvrir un peu les vannes et de laisser sortir, même si c'est un peu incohérent.
Néanmoins, vous n'avez pas voulu aller à un groupe de parole. C'était pas votre truc ?
Non, c'était pas mon truc.
Entre guillemets.
Oui.
On va avoir un reportage sur le groupe de parole et puis on va reparler après avec vous.
Oui, pour aider et accompagner les parents endeuillés, il existe des groupes de parole donc, dans lesquels ils peuvent exprimer librement leur souffrance et la partager avec d'autres. Notre équipe s'est rendue à Vannes dans le Morbihan où l'association Échange et Partage Deuil en organise régulièrement. Reportage de Marie Guyot, Claude Pavlec et Philippe Chalouni.
Je m'appelle Florence.
Florence.
Mon mari Bertrand. Notre fils Hugo nous a quittés le 5 avril dernier à l'âge de 15 ans et demi. Hugo, c'était un jeune garçon souriant, attentif, posé, plein d'humour, sensible. Et puis, il a traversé une crise d'adolescence avec tout ce que ça comporte de doutes et de questionnements. Mal-être, déception amoureuse. Il ne voulait plus aller au lycée. Alors, nous avons mis en place un suivi médical. Et le médecin psychiatre lui a prescrit un antidépresseur, en dépit de son jeune âge. À 15 ans, on est en pleine construction physique, psychique, intellectuelle, émotionnelle. Nous convaincant de la nécessité de le lui faire prendre, mais sans nous mettre en garde contre les risques avérés de passage à l'acte en début de traitement. Du jour où Hugo a pris ce médicament, il n'a plus jamais verbalisé d'idée suicidaire. Et il s'est donné la mort. On a le sentiment d'être abandonné littéralement. C'est-à-dire que on a l'impression qu'au drame s'ajoute un autre drame. C'est finalement celui de la société qui ne nous vient pas en aide.
Mais ce soir-là, vous avez fait un grand pas, hein, en venant, enfin déjà en appelant cet après-midi, et puis après en venant, et c'était important pour vous, hein.
Comme Florence et Bertrand, ils sont une dizaine de parents à être venus assister au groupe de parole proposé ce soir-là à Vannes par l'association Échange et Partage Deuil. Autour de la table, des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon qui partagent la douloureuse expérience d'avoir perdu un enfant.
Très souvent, les parents d'enfants endeuillés, oui, se sentent isolés et abandonnés. Ils ont l'impression d'être des pestiférés. Et ici, dans les groupes de parole, ils peuvent vraiment se dire et dire en toute authenticité et parler de leur enfant autant qu'ils le souhaitent, autant qu'ils en ont besoin.
Rémi, le fils d'Isabelle, a été tué par un chauffard à l'âge de 20 ans.
Moi, ça va faire bientôt dans quelques jours, ça fera un an. Et donc, c'est pas évident. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Alors, il y a deux solutions. Soit on prend le premier train, soit pour ses autres enfants, effectivement, grâce à eux, on continue. Et voilà, moi, je redouble d'énergie pour mes filles, mais aussi pour la vie. J'ai des moments où je pleure, j'en crève tellement, ça me fait mal. Mais je rigole et j'ai des moments de bonheur. Et j'essaie de tous ces moments-là, je les partage avec lui.
Les parents endeuillés viennent chercher avant tout de l'appartenance, du même qu'eux. Et ce qui est important pour eux, c'est d'entendre d'autres parents qui ont vécu aussi la mort de leur enfant. Donc le deuil est unique, mais quand même, ils s'y retrouvent bien parce que l'un a vécu la même chose que l'autre, etc., etc. Et c'est ça vraiment l'échange d'expériences qui les aide beaucoup.
Oui, je pense c'est un chemin qu'on a besoin de prendre, rencontrer des personnes qui peuvent comprendre ce qu'on ressent et avec qui on peut partager. Et puis il y a une volonté quand on perd un enfant, on s'attache à vouloir perpétuer son souvenir. Et donc, pouvoir continuer à prononcer son prénom tous les jours en famille, mais avec d'autres aussi.
La parole va s'installer et l'échange se poursuivre pendant encore une heure. Un instant bref, mais crucial pour ces parents endeuillés sur le chemin de la reconstruction.
Florence, que la maman de Hugo, que vous avez entendue au début de ce reportage, nous a envoyé un message. Merci de nous avoir permis d'exprimer notre profonde douleur. Merci surtout à vous d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que ces groupes de parole ou la prise en charge par un psy sont indispensables, ou est-ce que de ne pas y aller peut aussi être... Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'on peut s'en sortir sans?
Bien sûr que non. L'immense majorité des gens se débrouillent et avancent vraiment bien sans psy et sans association. Ce sont des aides vraiment complémentaires. On sait vraiment que l'élément essentiel pour avancer du mieux que l'on peut sur ce chemin, c'est au fil des années, c'est vraiment un réseau de soutien. C'est les proches, c'est les amis, c'est les gens. Alors c'est clair qu'il y a des gens qu'on va complètement rayer de son agenda parce qu'ils ne vont pas être présents. Ils ne vont pas répondre présents alors qu'on a besoin d'eux. Et donc ils sont parfois en périphérie, qui vont devenir vraiment des gens très proches. Mais c'est le noyau, ce sont les proches. Et la plupart du temps, ils n'osent pas, ils ne savent pas quoi dire. Et donc ils se mobilisent beaucoup au début. Mais le grand danger, c'est que ce réseau de soutien se délite un peu après 6 mois, 8 mois, 1 an, alors qu'on sait bien que dans la dynamique du deuil, le plus lourd, le plus douloureux, sourdement douloureux, profondément douloureux, ce n'est pas forcément les premiers mois, c'est un an et demi, 2 ans après. Et 2 ans après, les proches pensent que vraiment, ça y est, ils se disent, c'est un degré, alors c'est complètement faux. C'est là où on est vraiment au cœur de sa peine, mais on présente un visage sera entre guillemets à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur on est complètement détruit, mais les autres ne le voient pas. Donc vraiment, quand je parle de réseau de soutien de qualité, ce sont des gens qui ont la conscience que, au-delà de ce que l'on montre, c'est dans la durée que l'aide va être. Et comme le dit la dame dans le reportage, évoquer le nom de l'enfant, revenir un petit peu sur qui il était, comment, là où on en est aussi de sa peine, parce qu'elle évolue au fil du temps.
Oui, et quand on est proche, on n'ose même pas évoquer le nom, alors que c'est quelque chose de très important.
À chaque Noël, à chaque date anniversaire du décès, même après 5 ans, 10 ans, c'est essentiel de pouvoir réévoquer sereinement l'enfant qu'on a perdu. Et on ne remet pas le couteau dans la plaie, n'est-ce pas, hein? Au contraire, ça fait paradoxalement du bien.
Tout à l'heure, on évoquait une étape qui est évidemment très importante, celle des obsèques, des funérailles. Vous les avez voulues joyeuses, ces funérailles. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elles vous ont permis, joyeuses, vivantes, on va dire. En quoi elles vous ont aidé? Est-ce que c'est finalement le départ du travail de deuil se fait à ce moment-là? Ça pose les bases des mois qui ont suivi ensuite.
Il y a eu une enquête pour le décès d'Alice. Il y a eu du temps entre son décès et les obsèques. On ne savait pas combien de temps on aurait, hein, puisque la justice décide si on pourrait incinérer ou pas notre fille, quand est-ce que pourraient avoir lieu les obsèques. Et on s'est dit tous les deux que ce temps qui nous était donné, on allait l'employer pour faire une belle cérémonie. Parce que souvent on n'a que quelques jours, nous on a eu plus de 3 semaines, donc on s'est dit qu'on voulait que ce moment soit un hommage à notre fille, et on n'a pas fait quelque chose de joyeux, mais on a fait quelque chose comme elle lui ressemblait, qui lui ressemblait.
Elle était joyeuse et exubérante, et on a voulu lui rendre honneur à travers ça, et il y a eu énormément de monde, avec beaucoup de participation, de témoignages, etc., et...
Avec, elle faisait de la compétition en dressage, donc il y avait toute son équipe qui était là, habillée en tenue de cavalier de compétition. Il y avait, elle faisait de la cuisine à l'école Ferrandi, donc tous ses amis étaient là avec un nœud, soit dans les cheveux, soit voilà, parce que Alice portait un nœud rouge dans les cheveux.
Donc c'est un moment où vous et vos enfants avaient été particulièrement entourés. J'imagine quand ça c'est important. Parce que...
Oui, on a été portés. On a été portés. Oui. En fait, je pense que, a posteriori, moi je me dis toujours comment est-ce qu'on a pu trouver l'énergie de faire ça, de prendre la parole, d'organiser ça. Enfin, c'est
vous
fou.
Avez cette énergie-là, mais il y a beaucoup de couples qui se retrouvent aussi complètement anesthésiés. Et qui n'osent même pas organiser, enfin, qui laissent organiser pour eux. Vous avez pris la main là-dessus.
Oui, mais je pense que malgré l'anesthésie, il y en a quand même beaucoup qui ont des ressources insoupçonnées, qui peuvent prendre la parole ce jour-là, qui peuvent témoigner.
Oui, c'est aussi une protection psychique, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on décide. Il y a une protection psychique qui anesthésie de façon brève cette souffrance-là et qui rend possible justement de poser des actes essentiels comme les obsèques. Mais on sait bien que cette anesthésie, elle va s'estomper au fil des mois et des années, et que c'est là pour ça. C'est pour ça que je dis que la douleur, on va la rencontrer tardivement, en fait, après le décès.
On peut ne pas pleurer aux obsèques. Oui, je veux dire, une maman peut ne pas pleurer, et même si ça choque tout le monde en disant « la même pas pleurer ». C'est une protection, effectivement.
Encore un témoignage. Mon frère s'est noyé à 9 ans. J'avais 7 ans et demi. Mes parents se sont déchirés. Notre famille a explosé. Ma mère s'est suicidée à 42 ans. Est-ce qu'au-delà de ce témoignage horrible, est-ce que votre rôle, ça peut être aussi que des couples viennent vous voir pour arriver à se dire des choses et pour arriver à surmonter ensemble ?
Très clairement, très clairement. Là, je vois beaucoup de couples qui ont perdu des jeunes enfants, voire des petits bébés. Et c'est essentiel pour moi, si les deux parents acceptent de venir, qu'ils puissent vraiment cheminer ensemble, parce que c'est parfois le seul endroit où ils peuvent se dire des choses, parfois même des reproches. Parfois même des accusations, donc ça permet d'amortir les choses parce qu'il y a une tierce personne qui est là, mais clairement le chemin à deux est essentiel.
Ça permet d'éviter au couple de se séparer souvent.
Oui, bien sûr, il y a une idée complètement fausse qui dit que la mort de l'enfant va précipiter la rupture, c'est complètement faux ça. S'il y a rupture, c'est que la mort de l'enfant vient élargir des brèches préexistantes, mais ce n'est pas le décès de l'enfant qui provoque cela. Pourquoi j'insiste sur le fait de cheminer ensemble, c'est que le deuil crée un tel sentiment de solitude que même parfois si on est collé avec son compagnon ou sa compagne, on a l'impression d'être seul. Or c'est normal ce vécu-là, on ne s'est pas trompé, c'est vraiment la dynamique propre du deuil, d'être dans cette solitude, et donc important de cheminer ensemble en se tenant la main comme vous faites ensemble encore maintenant, parce que c'est vraiment c'est un soutien mutuel. Quand l'autre est au bas, l'autre est en plus en haut, donc c'est un vrai accompagnement. Et une des souffrances des parents en deuil, c'est que parfois quand les deux n'arrivent pas à se parler, vivent chacun de leur côté leur souffrance sans qu'il y ait de communication. Et là, peut-être des groupes de parole ou d'une aide psy peut aider, mais peu y ont recours, en fait.
Alors, je cite l'association qui vous a beaucoup aidé, dans laquelle vous êtes investi, Apprivoiser l'absence, www.apprivoiserlabsence.com. Et je rappelle des livres, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, Vivre le deuil au jour le jour, du docteur Christophe Fauré, c'est chez Albin Michel. Et puis également, Vivre après la mort de son enfant, des parents témoignent, Josette Grill, c'est également chez Albin Michel, et toujours chez le même éditeur, Hommes et femmes face au deuil, regard croisé sur le chagrin, de Nadine Botéac. Voilà, merci.
Merci Agnès, merci Serge.
D'être venu
témoigner.
Merci, docteur Fauré.
Merci Christophe. Et puis
un appel à témoins.
Un appel à témoins avant de finir. Oui, c'est sur toute autre chose et beaucoup plus léger. Vous souffrez de sciatique et si rien ne vous soulage, médicaments, infiltration, kiné, ostéopathe, opération. Vous avez consulté plusieurs spécialistes et essayé plusieurs méthodes sans que rien n'y fasse. Venez nous raconter votre parcours. 01 58 88 85 21.
Voilà, et puis demain dans Allo Docteur, à propos de l'affaire Vincent Lambert et de la polémique actuellement sur l'euthanasie, Allo Docteur consacré à la fin de vie avec Jean Leonetti, auteur de la loi qui répondra à vos questions et un spécialiste des soins palliatifs. Voilà.
Excellent après-midi et à demain.
Très bon après-midi, au revoir.
Allo Docteur vous reçoit sans rendez-vous sur France 5.fr.